Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et bonjour.
Bonjour Odile. Bonjour.
Bonjour. Et bien bienvenue pour cette émission.
Voilà, et bien Nicolas est de nouveau parmi nous. Là, ça faisait quelques émissions. Il n'avait pas pu venir et on est content de l'accueillir à nouveau. Peut-être, Nicolas, tu peux un peu nous dire un peu où tu en es par rapport à... Tu as fini tes études?
Ouais, j'ai fini mes études depuis plus de 6 mois maintenant. Je suis engagé par une association qui s'occupe d'un centre de loisirs pour les ados à Pervy, une association qui s'appelle Passe aux Jeunes. Et donc, je suis engagé en tant que service civique, c'est-à-dire que je bénéficie d'une indemnité de l'État pour un travail que j'ai fait à temps partiel de communication de l'association. Donc c'est essentiellement de la création d'affiches, la mise en page, une création de site internet pour l'association et également de faire la communication autour d'un événement qui aura lieu très prochainement à Fort-Calquier le 18 et 19 juin prochain, qui s'appelle du coup le festival UDDA, Urban Double Dutch Art, qui est un sport artistique qui est encore un peu méconnu des Français, mais qui fait fureur en Asie et en Amérique. C'est un sport qui consiste à utiliser deux cordes à sauter et à faire des figures, de laisser notre imagination prendre le dessus sur le sport. Et donc c'est un projet qui est porté par l'association qui est affiliée notamment avec une fédération sportive, la FSGT, à Paris.
Très bien. Et en même temps, tu continues à militer bien sûr à Artisans du Monde, Amnesty International.
Tout à fait.
Et tu travailles aussi à la préparation de ton projet de tourisme équitable
oui.
Sur l'île Maurice.
Je mets un peu... Oui, c'est vrai que je prends le temps j'ai beaucoup plus de temps pour y consacrer maintenant que j'ai terminé mes études. Donc, au fur et à mesure, je prends connaissance de ce qui se passe là-bas et je me documente pour pouvoir mieux persévérer dans ce sens.
Très bien. Alors, cette émission, on est d'abord très content parce que on vous annonce la libération de Biram Da Abe. Vous savez, c'est ce militant anti-esclavagiste mauritanien qui avait été condamné de façon tout à fait injuste à 2 ans de prison pour avoir manifesté de façon pacifique contre la pratique de l'esclavage qui persiste en Mauritanie, puisque la Mauritanie est classée au dernier rang en ce qui concerne les pays esclavagistes, ou plutôt au premier, hein, puisque c'est là qu'on trouve le plus d'esclaves, malgré toutes les... lois qu'ils ont signées pour soi-disant criminaliser l'esclavage, mais c'est les militants qui se retrouvent en prison et jamais les esclavagistes. Donc c'est une grande, très très grande victoire pour nous. Hein. Il a quand même passé 19 mois en prison pour rien, tout en continuant à être fidèle à ses valeurs de non-violence et de lutte contre l'esclavage depuis sa prison. Hein. Et Nicolas, tu vas peut-être nous lire le communiqué de remerciement.
Donc, qui a été fait par l'IRA, dont je rappelle, qui est l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Et donc, l'IRA a réalisé un communiqué de remerciement pour la libération de Biram Ba-Adé. Et donc, après 19 mois d'incarcération injuste et particulièrement cruelle, dont 12 dans la sinistre prison d'Aleg, loin des nôtres et dans un isolement presque complet, l'appareil judiciaire de Mauritanie, soumis aux caprices de Ould Abed Aziz, a ordonné notre libération. La décision de cette libération s'est accompagnée par un aveu d'injustice et d'iniquité caractérisé, formulé sous la forme d'une annulation des décisions des tribunaux qui nous ont jugés, condamnés et jetés en prison auparavant. Ainsi, nous aurions été victimes d'une erreur judiciaire, une erreur judiciaire qui nous a soustraits à nos familles et aux nôtres pendant 19 mois. Mais lors de cette épreuve, nous avons la fierté de dire à nos amis, à nos soutiens que nous n'avons pas faibli, que nous avons été fidèles aux engagements qui nous ont menés en prison et dont nous sommes si fiers. À tous ces amis, à tous ces soutiens, nous exprimons notre profonde gratitude et nos remerciements les plus sincères. Ce sont vos soutiens qui nous ont aidés à tenir, vos encouragements qui nous ont permis de résister aux tentations et aux sirènes de la compromission. Merci à vous. Merci aux hommes et aux femmes, anonymes ou célèbres, qui nous ont soutenus. Merci aux organisations de la société civile, aux partis et institutions qui nous ont suivis et encouragés. Merci aux chancelleries qui nous ont soutenus. Merci au gouvernement des USA, à l'Union européenne et aux institutions internationales comme Amnesty International, AVAS, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Frontline Defenders et bien d'autres encore qui nous ont inlassablement demandé notre libération. À tous, merci et nous renouvelons notre serment de continuer notre lutte résolue, inlassable, mais toujours pacifique et civilisée.
C'est une grande victoire, là, mais le combat continue pour les droits humains en Mauritanie et pour la fin de l'esclavage. Alors, suite à cette libération donc, de Biram Dabé et de Brahim aussi, qui est son second, si vous voulez, dans l'organisation, ils ont reçu la visite le 25 mai du secrétaire général d'Amnesty International, M. Salil Chetty, qui est, si vous voulez, la personnalité la plus importante au niveau d'Amnesty International, hein, qui représente l'ensemble du mouvement, qui était accompagné par M. Alioune Tine, qui est le directeur régional d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Hein. Son bureau est à Dakar. Et aussi de Gaëtan Moto, qui est le chercheur pour l'Afrique francophone, hein, et qui avait rendu visite à Biram dans sa prison, ainsi que de Mme Kiné Fatim Diop, qui est aussi chercheur à Amnesty International. Voilà, ils ont reçu cette visite et ça a été une occasion majeure pour Biram et Brahim de remercier leurs visiteurs du soutien important d'Amnesty International apporté et continue d'apporter à IRA Mauritanie. Elle a permis également d'échanger sur les questions des droits humains à l'heure de l'heure en Mauritanie. La condamnation de Oud Mektir. Alors là, c'est un jeune, on en a parlé déjà sur cette antenne, hein, un jeune qui fait partie des forgerons et qui avait publié sur son blog ses impressions, ses sentiments. Et il a été condamné à mort pour apostasie. Alors que la critique n'était pas... Et puis, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion et demande sa libération immédiate. Voilà, donc il reste énormément de problèmes en Mauritanie et l'esclavage perdure. Et nul doute que Biram et Brahim, une fois maintenant libérés, vont continuer le combat. Ils ont résisté à toutes les intimidations, aux provocations. On leur a proposé de l'argent. C'est sûr qu'il suffisait d'un mot pour qu'ils se retrouvent avec un très beau poste, une belle voiture, une super villa. Mais il est intraitable sur son engagement pour les droits humains et dans le respect des autres et dans une totale non-violence. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle. Bah, maintenant, écoutez Nougaro qui chante Armstrong.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, lui là-haut, les anges. Zéro, je suis blanc de peau. I'm Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir. Du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui. Chante, chante, chante. Ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Voilà, très belle chanson sur le contre le racisme qu'on dédie à Biram et Ibrahim. Voilà, je vais vous parler maintenant de l'Union européenne et de la France qui sont complices de la répression en Égypte. Cela fait 3 ans depuis les tueries qui ont poussé l'Union européenne à demander à ses États membres de suspendre leur transfert d'armes vers l'Égypte. La situation des droits humains s'est encore dégradée. Les forces de sécurité continuent de mener une répression interne et elles agissent quasiment en toute impunité. Le recours excessif à la force, les arrestations arbitraires massives, la torture et les disparitions forcées font à présent partie du mode opératoire des forces de sécurité de l'Égypte. En 2014, des États membres de l'Union européenne ont octroyé 290 licences d'exportation vers l'Égypte d'équipements militaires pour un total de plus de 6 milliards d'euros. Les États-Unis sont à 6,77 milliards de dollars. Les articles concernés comprenaient des armes légères et de petit calibre, ainsi que des munitions, des véhicules blindés, des hélicoptères, des armes lourdes, etc. Au cours de ces dernières années, les autorités égyptiennes ont mené une répression sous le prétexte de rétablir la stabilité dans le pays, après la destitution par l'armée du président Morsi en 2013. Elles ont utilisé des méthodes brutales, notamment en recourant à une force excessive et arbitraire avec des armes à feu, des véhicules blindés et d'autres équipements, qui ont causé l'homicide illégal de centaines de manifestants. Des milliers de personnes ont aussi été arrêtées et jugées dans le cadre de procès collectifs manifestement iniques. Des détenus signalent souvent des actes de torture et d'autres mauvais traitements. En janvier 2015, au moins 27 personnes sont mortes dans le cadre de violences liées à des manifestations, dont un grand nombre aux mains de membres armés des forces de sécurité. Des membres armés des forces de sécurité ont également procédé à des arrestations massives de personnes qui critiquaient le gouvernement et d'opposants politiques. Près de 12 000 personnes ont été arrêtées parce qu'elles étaient soupçonnées de terrorisme au cours des seuls 10 premiers mois de l'année 2015, selon un responsable du ministère de l'Intérieur cité par la presse égyptienne. Au cours de l'an dernier, le pays a connu une vague de disparitions forcées. Des centaines de personnes ont été enlevées par les membres armés des forces de sécurité. Ces personnes sont maintenant maintenues en détention au secret de façon prolongée, sans qu'elles puissent communiquer à leur famille ou avec un avocat, et torturées par des agents des forces de sécurité qui tentent de leur faire avouer des infractions liées au terrorisme. Le fait de fournir des armes qui vont probablement faciliter la répression interne en Égypte est contraire aux dispositions du traité sur le commerce des armes, auquel tous les États de l'Union européenne sont partis, et bafoue la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes. Donc Amnesty demande impérativement que l'Union européenne impose un embargo sur tous les transferts des types d'armes et d'équipements utilisés en Égypte pour commettre de graves violations des droits humains. L'Union européenne et ses membres doivent cesser de récompenser le comportement déplorable de la police et de l'armée égyptienne en leur fournissant des armes. Voilà, c'est un appel d'Amnesty International pour que cesse cette exportation d'armes vers l'Égypte qui l'emploie pour maltraiter sa population. C'est d'ailleurs le président Al-Sisi a dit que l'Égypte était un état de droit à l'occasion d'une visite officielle de François Hollande en Égypte. C'est un mensonge éhonté, alors que, comme l'ont indiqué 6 ONG dans une lettre ouverte, la répression à l'encontre de toute voix critique n'a jamais eu d'égal dans l'histoire égyptienne. 40 000 prisonniers politiques, 7 400 personnes, dont 86 enfants traduits devant des tribunaux militaires, 90 disparitions par jour depuis mars 2015, 39 ONG menacées de fermeture. Le président Hollande a rappelé à son homologue égyptien que les droits de l'homme sont aussi une façon de lutter contre le terrorisme. Voilà en ce qui concerne l'Égypte, c'est une situation qui nous inquiète énormément. On va maintenant mettre une petite chanson de Vigneault, Internaute.
Solitaire, je me terre sous la terre de mes mots. La console qui m'isole se désole à huis clos. Le temps d'un monde passe à la portée du doigt. Et me voici tournant autour de ma planète où des milliards d'amis me font signe. On m'attend et je plonge. Et je plonge au hasard dans l'océan fantôme. Et l'irréel enfin me prend dans ses bras doux. Me voici sans ennui et sans appartenance. Et l'espace aboli fait oublier le temps. La misère qui prospère indiffère mon cerveau. Ma console, c'est l'école qui me colle à la peau. Autrefois, je voyais des voisins, des amis. J'avais des rendez-vous, des parents, une femme. J'avais les pieds soudés aux souliers du travail. Et je plane. Et je plane au-dessus du smog et des tornades. Sans horaire et sans but. Et mes ailes de fer vont au cœur du soleil en mémoire d'Icare. Et j'en reviens mordu d'azur et bardé d'or. Cimetière de lumière, choix de pierre, d'air et d'eau, les paroles qui s'envolent, caracolent dans mon dos. J'ai trouvé dans Yibé bien plus que je cherchais, un dépotoir d'acier en orbite éclatée. Une banquise à vendre au prix du CO2. Et je roule. Je roule sur des corps que mon regard attise. Un champ de chair offerte à l'infini de l'œil. Et j'entends par milliers des voix tendres qui disent: la nuit commence ici, tu ne seras plus seul. Vos prières planétaire exaspère mon ego. Leurs paroles qui cajole s'étiole sans écho. J'ai collé mon plasma au plasma des pixels. Je suis le maître enfin des bourreaux ordinaires. Et je sens que j'acquère des attributs divins. Et je tombe. Et je tombe du haut des plus anciens vertiges. Vous parlez, mais vos voix ne me parviennent plus. Je rêve que je bois, rien ne saurait m'atteindre. Je me sens devenir de moins en moins humain. Solitaire, je me terre sous la terre de mes mots. Ma console qui m'isole me désole à huis clos. Seul sur terre,
voilà, alors maintenant nous allons vous donner un petit peu des bonnes nouvelles que nous avons reçues ce mois-ci. Bonnes nouvelles qui nous encouragent à continuer notre combat pour les droits humains.
On commence par faire un tour du côté de l'Azerbaïdjan où il y a une journaliste qui s'appelle Khadija Ismailova qui a été libérée. Une libération qui a été ordonnée par la Cour suprême donc d'Azerbaïdjan. Qui c'est donc une évolution encourageante, mais justice ne sera véritablement rendue que si sa déclaration de culpabilité est annulée.
Voilà une autre bonne nouvelle pour nous aussi. C'est la justice grecque qui désavoue l'accord Union européenne-Turquie. Vous vous souvenez, on avait parlé la dernière fois de cet accord qui était en fait un troc d'êtres humains et cet accord honteux conclu entre l'Union européenne et la Turquie ne résiste pas à son premier passage en justice. La justice grecque a donc mis en évidence la faille fondamentale de cet accord. La Turquie n'est pas un pays sûr pour les réfugiés, ce que Amnesty n'a pas cessé de dire. Et la justice grecque l'a confirmé. Donc c'est pour nous une bonne nouvelle.
On fait maintenant un tour du côté d'Iran. Après un tollé mondial, la peine d'Ali Reza Tajiki, qui est une mineure qui a été condamnée à mort en avril 2013 et qui est maintenant âgée de 19 ans. Et donc la peine de condamnation à mort a été reportée. Après, donc, elle a été condamnée à mort en avril 2013 après qu'un tribunal pénal de la province du Fars dans le sud de l'Iran, l'a déclaré coupable de meurtre et de viol, principalement sur la base d'aveux arrachés sous la torture. Il était revenu à maintes reprises sur ses aveux durant son procès. Son exécution devait se tenir dimanche 15 mai.
Voilà. En Irlande, vous savez que l'Irlande interdit l'avortement. Et il y a un nouvel appel pour réformer ces lois anti-avortement. L'examen des Nations Unies relance l'appel pour cette réforme des lois irlandaises en matière d'avortement.
Le 12 mai dernier, Amnesty International a remis à l'Assemblée nationale plus de 60 000 signatures de notre pétition qui demandait le respect des droits humains dans la lutte antiterroriste, alors que les députés s'apprêtent à valider la reconduite pour 2 mois de l'état d'urgence voté par le Sénat mardi dernier.
en Iran, une artiste libérée. C'est la remise en liberté d'Athena Farghadani, artiste et militante, mardi 3 mai. C'est un premier pas vers la réparation de l'injustice qu'elle a subie.
Angélique Kidjo et les membres de Yann Amar, du ballet citoyen et de Lucha sont tous ardents défenseurs des droits humains qui méritent leur talent au service de la mobilisation. Ils ont reçu le prix ambassadeur de conscience le 4 mai 2016.
Voilà, et ce sont donc des jeunes de la République démocratique du Congo. Voilà pour les bonnes nouvelles. Une autre quand même aussi bonne nouvelle, c'est un sondage assez surprenant que nous avons réalisé, portant sur 27 pays, et qui révèle que 80% des personnes interrogées sont prêtes à accueillir les réfugiés dans leur pays. Des résultats positifs partout dans le monde. La Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni se montrent les plus accueillants envers les réfugiés. La dernière place est occupée par la Russie. Presque la quasi-totalité des Allemands, 96%, ont indiqué qu'ils accepteraient des réfugiés dans leur pays. Au Royaume-Uni, 87% des personnes interrogées souhaitent accueillir des réfugiés dans leur pays. 82% des personnes interrogées en France souhaitent accueillir des réfugiés ici en France. Dans des pays qui ont déjà accueilli de nombreux réfugiés, le degré d'acceptation ne semble pas être en baisse. Ainsi, la Jordanie, qui accueille plus de 600 000 réfugiés, et la Grèce, où environ 850 000 réfugiés et migrants sont arrivés en 2015, figurent parmi les 10 premiers pays du classement. Favorable au droit d'asile, le public attend plus de leur gouvernement. 73% des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle les personnes fuyant la guerre ou des persécutions devaient pouvoir trouver refuge dans d'autres pays. C'est le principe du droit d'asile. Dans plusieurs pays qui sont au cœur de la crise de l'accueil des réfugiés, trois quarts ou plus des personnes voudraient que leur gouvernement en fasse encore plus. Par exemple en Allemagne, 76%, en Grèce, 74%, et même en Jordanie, 84%. La France doit donc accueillir mieux et plus de réfugiés. Il y a une pétition en ligne pour interpeller le président de la République, François Hollande, dans ce sens. On voit bien donc que l'opinion mondiale est attachée aux principes inscrits dans le droit international. La plupart de leurs gouvernements renient ou ignorent de plus en plus les engagements. Donc on voit que la société civile est bien en avance dans le respect des droits humains que les dirigeants des pays. Il y a un sommet mondial qui va avoir lieu en septembre pour traiter de la crise des réfugiés. Les États se doivent de tenir compte de l'opinion publique et saisir cette occasion pour s'engager à réinstaller tous les réfugiés identifiés par l'ONU dans les pays de transit, en ayant soin d'une protection efficace, créer ou renforcer des voies sûres et légales pour permettre aux réfugiés de se mettre à l'abri sans mettre leur vie en danger. On a vu récemment de nouveaux morts en Méditerranée, et accroître de manière significative leur contribution au financement des opérations humanitaires, notamment en répondant pleinement aux appels humanitaires de l'ONU. On passe une nouvelle page musical avec Ijolin seul.
Seul le retour des beaux jours et de la saison des amours. Champêtre, l'alouette et l'hirondelle, le merle et les moineaux chantent à tue-tête. Les traits tirés devant la glace, besoin d'espace et d'air pur. J'ai tout plaqué et pris la clé des champs pour m'évader dans le grand bleu d'azur. Sous l'étendard bleu du ciel, mon âme ouvre ses ailes au baiser du vent. Les cerisiers sont en fleurs, je sens battre mon cœur à l'appel du printemps. Seul, je prends la route, chat, sans tous les doutes qui s'attaquent à ma voix. La tête dans les nuages, l'esprit libre et volage, j'entends battre mon cœur. J'adore me balader seul dans les châteaux hantés par des poètes. Le corps secoué de frissons en leur chantant tout ce qui me passe par la tête. Loin de la folie,
marche libre et sans attache que la vie qui s'en vient. Un sourire aux lèvres, le cœur plein de rêves et qui m'attend et qui m'entend et qui me tord les bras. Ouais, yeah.
Nous allons vous parler des pétitions qui sont en ligne en ce moment sur amnesty.fr. Et je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre site pour les signer. Quand nous nous rendons par exemple aux ambassades, nous prenons des saisies d'écran de toutes ces pétitions pour les apporter, avec les pétitions papier aussi, aux ambassadeurs pour faire pression, pour améliorer la situation des droits humains. Donc vous trouverez dans ces pétitions en ligne en ce moment la pétition sur la France qui doit faire un effort pour accueillir les réfugiés, puisque 82% des Français se disent prêts à cet accueil. Il est temps d'agir pour changer nos politiques. Ensuite, Nicolas, tu en proposes une autre ?
Oui, au Burkina Faso, il y a des milliers de jeunes femmes et de filles, parfois âgées de 11 ans seulement, qui font l'objet de mariages précoces et forcés. Donc, comprenez bien que cela doit cesser. Donc, Amnesty International a fait une pétition qui s'appelle « Protégeons les filles du mariage forcé » que vous retrouverez sur le site amnesty.fr.
Une autre pétition qui concerne le Qatar. Malgré toutes les promesses, le Qatar n'a toujours pas réformé son système de travail des migrants qui relève de l'exploitation. Les travailleurs migrants ont besoin de l'autorisation de leur employeur pour quitter le pays et pour changer de travail. Le contrôle excessif des employeurs sur la vie de leurs travailleurs les rend vulnérables à l'exploitation, voire au travail forcé. Et ils sont très nombreux puisque le Qatar prépare la Coupe du Monde. Et donc, il y a une pétition pour dire à la FIFA et à ses sponsors de mettre fin à cette exploitation sur les chantiers de la Coupe du Monde.
Au Yémen, plus de 3000 civils ont été tués depuis le début de l'intervention militaire, notamment par les frappes illégales de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Au vu des nombreuses atteintes au droit international, tous les États, dont la France, doivent immédiatement cesser leur transfert d'armes aux parties de ce conflit. Amnesty a donc réalisé une pétition pour demander la cessation du transfert d'armes au Yémen par l'Arabie Saoudite.
Concernant à nouveau les réfugiés, ce sont les réfugiés qui pensent pouvoir trouver refuge en Grèce. La réalité est tout autre, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils manquent d'eau, de nourriture, d'un toit pour dormir. Personne n'est épargné. Enfants, personnes handicapées ou âgées, femmes enceintes, etc. Il y a une pétition pour demander l'accueil de ces réfugiés dans des conditions dignes.
Des dizaines de jeunes militants du mouvement citoyen La Lucha ont été arrêtés depuis un an. Tous doivent être libérés. Et donc Amnesty International a réalisé une pétition pour demander la libération de ces jeunes.
Les Nord-Coréens doivent être libres de communiquer. La frontière numérique est le dernier champ de bataille de la campagne du gouvernement nord-coréen visant à isoler son peuple et à cacher la vérité sur la terrible situation des droits humains dans le pays. Internet est inaccessible à la quasi-totalité de la population et téléphoner à sa famille basée à l'étranger vous expose à de graves conséquences.
Sujet très intéressant, en République démocratique du Congo, des enfants et des adultes travaillent dans des mines, dans des conditions extrêmement dangereuses, sans outils adéquats ni protection, pour extraire notamment des minerais pour fabriquer nos téléphones. Les creuseurs travaillent mains et pieds nus, sans casque ni masque pour extraire du cobalt, un minerai pourtant toxique. Celui-ci sert ensuite à fabriquer des batteries rechargeables de nos appareils électroniques portables, tout ce qui est téléphone mobile, ordinateur, voiture électrique, etc. En 2015, au moins 80 travailleurs sont morts dans les mines du sud du pays, donc de République démocratique du Congo. Et Amnesty International a réalisé une pétition pour demander aux dirigeants d'Apple et Samsung d'où provient le cobalt qui sont intégrés dans les téléphones, donc des deux marques.
Voilà, et puis une pétition concernant l'Iran, stop à la peine de mort pour les mineurs, on a vu tout à l'heure. Des dizaines de jeunes sont dans le quartier des condamnés à mort en Iran pour des crimes commis lorsqu'ils étaient mineurs. Nombre d'entre eux ont été condamnés à l'issue de procès iniques, notamment sur la base d'aveux forcés, c'était l'exemple de tout à l'heure, arrachés sous la torture et d'autres formes de mauvais traitements. Vous savez que la condamnation de mineurs est en contradiction avec notamment les droits des enfants. Voilà pour les pétitions qui sont en ligne, donc, sur amnesty.fr. Et je vous engage vivement à aller les signer, à rejoindre ainsi notre mouvement. On va écouter maintenant encore Higelin, Château de Sable.
De sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or s'endort un conteur de fables charmé par la danse d'une aurore boréale. Rêve, rêve, bâtisseur de cathédrale, rêve de lumière, de poussière et de tourbillon d'étoiles filantes. En ce beau château de sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or arrivent en bel équipage la divine et sauvage magicienne, celle qui d'un seul coup d'archet, d'une caresse du bout des doigts sur le corps hanté de son violoncelle, peut envoûter le cœur et l'âme. Château de sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or, l'enchanteur et la magicienne sable le champagne à la gloire de l'éphémère.
Très belle chanson, d'Higelin. Un petit mot maintenant sur notre journal mensuel qui s'appelle La Chronique d'Amnesty International et qui est disponible à la médiathèque de Digne. Donc vous pouvez la consulter et l'emprunter. Alors la chronique du mois de mai 2016, je vous la présente un petit peu. Elle revient donc dans l'éditorial de Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty France. Elle parle des problèmes des droits humains en Égypte. Ensuite, vous avez un article sur le grand bond en arrière concernant la peine de mort. Alors, si le nombre de pays appliquant la peine de mort a diminué, par contre, l'année dernière, c'est une triste année, car le nombre d'exécutions s'est envolé de façon dramatique. Et on le dit dans notre rapport paru le 6 avril, On recense 1634 personnes exécutées en 2015, donc c'est une hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Et dans ce nombre, bien sûr, on n'a pas le nombre de Chinois qui ont été exécutés en Chine, parce que la Chine ne communique absolument pas sur son nombre d'exécutions. Hein. Donc, triste bilan avec des pays, donc la Chine, point d'interrogation. L'Iran, 977 condamnés ont été exécutés en 2015. L'Arabie Saoudite, 158. Le Pakistan, 320. Les États-Unis, 28. Voilà, donc des exécutions qui... Cette flambée des exécutions nous inquiète énormément, alors que normalement, on devrait aller vers un monde sans peine de mort. Ensuite, on a un article intéressant aussi sur les lanceurs d'alerte. Amnesty demande la protection de ces lanceurs d'alerte. Et on a interviewé Edward Snowden, qui est quand même assez sceptique. Hein. Pourtant, il y a eu les Panama Papers. On en a beaucoup parlé. On n'en parle plus du tout maintenant. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. François Hollande s'extasiait sur le travail utile des lanceurs d'alerte pour la communauté internationale. Ce président refusait la demande d'asile, pourtant, du lanceur d'alerte, Edward Snowden, qui est réfugié en Russie. Menacé de 10 ans d'emprisonnement, il n'est pas le seul à avoir pris des risques pour révéler des situations anormales au grand public et en payer l'addition. Alors, par exemple, venu assister à La Haye le 24 mars au procès de Radovan Karadzic, Florence Atman est arrêtée dans la bousculade et les cris. Elle a révélé 6 ans plus tôt les décisions confidentielles qui impliquent l'État serbe dans le massacre de Srebrenica. Quant à Antoine Deltour, à l'origine des révélations de LuxLeaks, en 2014, sur le système d'optimisation fiscale des multinationales, il place ses espoirs dans une pétition pour financer sa défense. L'escadre d'UBS, Stéphanie Gibault, qui a dénoncé les fraudes de la Banque Suisse, vit depuis 2012 des minima sociaux. Humiliation, placardisation, retour de bâton, rien n'a été fait jusqu'à présent pour protéger les lanceurs d'alerte. On comprend que la source des Panama Papers ait peur, comme l'explique un journaliste qui a reçu de cet anonyme les millions de documents. Amnesty International, nous réclamons depuis longtemps la protection internationale pour les lanceurs d'alerte. Il aura fallu le coup d'éclat des Panama Papers pour que la France y songe. Un projet de loi présenté fin mars inciterait les sources à se tourner vers les autorités publiques avec la possibilité de rémunérer. C'est une fausse bonne idée, car les informateurs contactent naturellement les médias pour informer en toute indépendance et agissent le plus souvent gracieusement dans l'intérêt public. Donc nous nous devons de protéger ces personnes qui font œuvre de salubrité publique. Voilà, donc c'est un article intéressant sur les lanceurs d'alerte. Ensuite, en feuilletant, donc on reparle du Qatar, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un article sur la Corée du Nord, aux abonnés absents, justement, cette chape de plomb là qui s'abat depuis des années sur les Coréens du Nord qui ne peuvent même pas communiquer à leur famille à l'étranger. Ensuite, vous avez trois cas pour lesquels on demande un courrier. Vous pouvez aussi le faire, hein, même si vous n'êtes pas membre d'Amnesty. Il y a notamment le cas de ce forgeron là, en Mauritanie, Métir, qui est condamné pour blasphème, condamné à mort. Donc il y a un appel au président. Ensuite, vous avez un article, un entretien avec Teng Biao, qui est un avocat qui dénonce un État chinois violeur de ses propres lois. La Chine veut éliminer la société civile, c'est le titre de l'article. Très intéressant. Vous avez en Israël les ONG dans la tourmente. Une loi en cours d'adoption à la Knesset veut contrôler les ressources des organisations non gouvernementales. Alors c'est déjà la Russie et l'Inde qui avaient fait ce genre de loi, hein, en disant que les ONG qui reçoivent de l'argent de l'extérieur sont considérées pratiquement comme des ennemis de l'État, des agents étrangers. Voilà, donc c'est l'ONG comme Amnesty International qui est par nature internationale, voilà, pourrait être accusée d'être une cinquième colonne à la solde des puissances étrangères. Voilà, une attaque frontale d'Israël, de l'État d'Israël envers les ONG. Donc Amnesty, et notamment la section Amnesty International d'Israël, est vent debout contre ce projet de loi. Ensuite, vous avez un article sur la France et l'état d'urgence. Et puis, vous avez un article, un portfolio, hein, donc un article d'un photographe sur les accouchements sur le toit du monde, sur les hauts plateaux de Bolivie. Des femmes amérindiennes préfèrent accoucher à domicile. La Bolivie qui a un taux de mortalité maternelle très, très élevé. Donc, c'est tout un reportage avec de très belles photos. Et ensuite, à la fin du journal, vous avez des pages culture où on met en avant des films, des documentaires, des colloques, des livres, des expositions, des CD, tout ça qui concerne bien sûr les droits humains. Et ensuite, quelques informations des différentes activités des groupes. Et voilà, donc c'est un journal que vous pouvez vous procurer, vous pouvez lire à la médiathèque intercommunale des Trois-Vallées à Digne. Nous avons le groupe Dinois à abonner la médiathèque. Et puis vous pouvez, si ça vous intéresse, vous abonner aussi, bien sûr. Ce n'est pas interdit. Nous allons maintenant parler un petit peu avec Nicolas des activités prochaines de notre groupe d'Amnesty International, sachant que demain, nous avons notre réunion de groupe à 18h dans les salles des associations à côté de la mairie de Digne. Donc, si vous vouliez vous rendre compte de ce que nous faisons, vous êtes bien sûr invité à y participer.
Comme tu disais tout à l'heure, où tu parlais de la médiathèque des Trois-Vallées, donc Asbléon-Verdon, à Digne-les-Bains. Et ce samedi 11 juin, à la médiathèque, il y aura le Salon du Livre Jeunesse qui a lieu chaque année sur Digne, où Amnesty sera présent de 10h à 17h pour vendre donc des bouquins en lien avec les droits humains et qui sont adressés plus particulièrement à la jeunesse. Donc c'est un salon qui, pour le coup, cette année aura lieu en même temps que le festival Sciences Métis, qui est organisé par la Ligue de l'enseignement des Alpes du Sud. Donc vous trouverez également des livres en rapport avec les sciences.
Voilà, puis vous aurez des invités et vous pourrez faire dédicacer des livres. Il y a notamment Patrice Favaro et Françoise Malaval qui ont édité des livres avec Amnesty International, notamment Princesse Lac, hein, qui était un rappel de la situation de Aung San Suu Kyi en Birmanie. Voilà, et puis vous aurez aussi Eric Roland Bellagamba, Delphine Berger-Cornuel et Philippe Wolf, qui est auteur et éditeur. Et puis d'autres associations qu'Amnesty, hein, Canopée et Lire et Faire Lire. Donc tout ça se passera à la médiathèque intercommunale des Trois-Vallées le samedi 11 juin, à la médiathèque de Digne. Ensuite, le mercredi 29 juin, nous avons été invités à une fête qui s'appelle Fête de la solidarité. Donc, il y a un jeu de mots sur le verbe faire et la fête. Voilà, alors en fonction de nos disponibilités, on verra si on peut y participer parce que, bon, on est un petit groupe et on a tous des occupations et on ne peut pas toujours tout faire. Et puis, je vous annonce déjà, retenez cette date, jeudi 29 septembre. À partir de 18h, il y aura un concert d'Odile Frison, d'Alain Vitier et d'Hélène Gosselin. Ça se passera donc au centre René Char en deux parties. Donc vous aurez une première partie de chansons, ensuite un petit buffet et une deuxième partie de chansons. Donc on terminera vers 22h. En même temps, bien sûr, pendant le buffet, on vous exposera les activités d'Amnesty. Il y aura bien sûr des pétitions à signer, des lettres à envoyer. Et on passera une bonne soirée. Donc l'entrée sera libre. Il y aura une participation au chapeau. Donc vous donnerez ce que vous voulez, à la fois pour assister aux chansons et aussi pour le buffet. Sachant que Amnesty International est, je le répète souvent, une des rares associations à ne vivre d'aucune subvention, puisqu'elle elle n'en demande pas justement pour rester indépendante. Et donc elle vit par les cotisations des groupes, l'argent récolté par les groupes, et puis tous les dons que les gens peuvent faire partout dans le monde. Voilà, nous allons terminer par une chanson de Brassens. Jeanne, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui était la mère de tout le monde.
Et on se dit au revoir maintenant.
Et on se dit au revoir maintenant.
Oui. Alors, au revoir. Et là, on rappelle la réunion, l'Assemblée Générale, c'est demain à 18h.
Demain à 18h, réunion du groupe dans une des salles des associations à côté de la mairie. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez venir.
Au premier étage.
Premier étage ou au deuxième, c'est marqué en bas. Vous demandez à l'accueil ou dans quelle salle nous nous trouvons. Et voilà. Et puis, samedi 11 juin, à la médiathèque, venez... faire dédicacer des livres ou acheter des albums pour enfants qui traitent des droits humains. Vous verrez que nous en avons pas mal de titres.
Allez, on écoute Brassens. Au revoir.
Au revoir.
Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie. Par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paie quand on peut des prix mirobolants. Un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs. Un semblant d'accord de guitare. L'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, la Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait toute chagrine. Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon? Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle.